Chapitre 4. La dimension politique de la guerre, des conflits interétatiques aux enjeux transnationaux. Cours. Faire la guerre du XVIIIe siècle au XXe siècle. Comment expliquer la multiplication et l'intensification des conflits depuis la fin du XVIIIe siècle? 1. La guerre au XVIIIe et XIXe siècle, des conflits limités entre États. A. L'Europe, épicentre de la guerre au XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières est aussi le siècle de la guerre. Les puissances européennes se disputent des territoires en Europe et des colonies dans le reste du monde. Les Antilles, les îles à sucre, sont un enjeu majeur de la rivalité entre la France et la Grande-Bretagne. Les conflits sont interétatiques et symétriques. Ils opposent des États qui s'affrontent avec des armées et des flottes similaires. La guerre de Sept Ans, 1756-1763, est la Première Guerre mondiale. Deux coalitions, Grande-Bretagne, Prusse et Portugal d'un côté, France, Autriche, Russie et Espagne de l'autre, s'affrontent en Europe, en Amérique et en Asie. Si elle a cette dimension planétaire, la guerre de Sept Ans reste cependant une guerre classique, que les États savent arrêter quand ils ont atteint leur objectif politique. Les guerres révolutionnaires et napoléoniennes se rapprochent de ce que Clausewitz appelle la guerre absolue. En 1792, la France est envahie par l'Autriche et la Prusse qui tentent d'écraser la Révolution. 200 000 volontaires prennent alors les armes pour sauver la patrie en danger. Puis, Napoléon exporte les valeurs de 1789 dans toute l'Europe en combattant les autres souverains. Dans cette période, le recours à la conscription et l'affirmation du sentiment national donnent à la guerre un caractère nouveau. B. La multiplication des conflits dans le monde au XIXe siècle. En Europe, les conflits se font plus rares. En 1815, le Congrès de Vienne instaure un équilibre des puissances qui permet une paix relative jusqu'en 1914. Mais l'essor du nationalisme, notamment en Europe centrale et orientale, perturbe cet équilibre, comme le montrent la guerre franco-prussienne de 1870-1871 et les deux guerres balkaniques de 1912-1913. Les Européens multiplient les guerres en Asie et en Afrique. Sous le règne de Victoria, 1837-1901, la Grande-Bretagne mène 63 guerres coloniales. Pour se tailler un empire, les Allemands lancent 30 campagnes militaires entre 1880 et 1914. La supériorité technique des Européens, avec notamment la mitrailleuse, leur assure souvent une victoire aisée. Le continent américain est touché par des conflits spécifiques. En Amérique du Sud, les colonies espagnoles et portugaises se soulèvent pour obtenir l'indépendance, 1810-1825. Aux États-Unis, la guerre de sécession, 1861-1865, fait plus de 600 000 morts. Tous ces conflits possèdent des points communs. La hausse des effectifs, le perfectionnement incessant des armes et l'utilisation du chemin de fer pour le transport des troupes marquent l'entrée dans la guerre industrielle. 2. La guerre au XXe siècle, vers une violence sans limite. A. La Première Guerre mondiale, la guerre totale. Au début du XXe siècle, les États européens se sont préparés à l'éventualité d'une guerre. Leurs rivalités ont conduit à la formation d'alliances ennemies, triple alliance et triple entente, prêtes à se faire la guerre en cas d'absence de solution politique. La Première Guerre mondiale est le premier exemple de guerre totale. Pour vaincre l'adversaire, les États mobilisent toutes leurs ressources à un degré jamais atteint auparavant. Les civils participent à l'effort de guerre. Toute l'économie est tournée vers la victoire. Pour l'historien américain Jay Winter, c'est aussi la première guerre globale. Les flux de personnes, travailleurs issus des colonies, de capitaux, emprunts auprès des États-Unis, de marchandises, les entreprises américaines fournissent les alliés, et d'informations, les médias du monde entier couvrent le conflit, alimentent la mondialisation. B. La Seconde Guerre mondiale, la guerre d'anéantissement. Si les motifs de la Première Guerre mondiale étaient politiques, ceux de la Seconde sont idéologiques. Les pays de l'Axe partagent une idéologie impérialiste et raciste. Le Japon cherche à dominer l'Asie et Hitler veut rassembler les peuples germanophones et coloniser un espace vital. De leur côté, les Alliés combattent pour la défense de la liberté et l'égalité entre les peuples. C'est une guerre d'anéantissement dont les civils sont les principales victimes. Dans les territoires qu'ils colonisent, les Japonais réduisent les populations en esclavage, tandis que l'Allemagne nazie organise le génocide des Juifs et des Tziganes. Pour vaincre l'Axe, les Alliés n'hésitent pas à bombarder massivement les villes allemandes et japonaises et à utiliser l'arme atomique. C'est la guerre froide, une logique bipolaire inédite. La guerre froide est la confrontation de deux superpuissances. Les anciennes puissances européennes sont affaiblies par les guerres mondiales, puis par la décolonisation à partir de 1945. Les relations internationales se réorganisent alors autour de deux pôles, les États-Unis et l'URSS. Deux blocs se constituent et s'affrontent, selon une logique bipolaire inédite. La dissuasion nucléaire rend impossible un conflit armé direct. En vertu de l'équilibre de la terreur, si l'un des deux grands utilise l'arme atomique, l'autre ripostera et le monde entier risque d'être détruit. Le philosophe Raymond Aron résume ainsi ce paradoxe : paix impossible, guerre improbable. La guerre froide prend dès lors la forme de conflits périphériques, dans lesquels les deux grands s'affrontent indirectement. La guerre froide est aussi une guerre idéologique, dans laquelle la propagande joue un rôle essentiel. Les deux camps se diabolisent mutuellement et chacun défend son modèle politique et économique, démocratie et capitalisme à l'ouest, communisme à l'est.